Il nous a semblé indispensable cette année, après la succession de Benoît XVI, de venir l'assurer de notre fidélité, de notre attachement à l'Église et évidemment à la personne de Benoît XVI, qui nous est très cher, nous parlementaires, parce qu'il y a beaucoup de textes qu'il a déjà donnés, notamment la note doctrinale de novembre 2002 sur le comportement des responsables politiques.
Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement? Quel est l'héritage que vous gardez de cette note au quotidien?
Alors d'abord, l'imprescriptibilité des droits de la conscience personnelle. C'est très important parce que, en définitive, c'est bien dans la conscience de chacun que se noue et que se dénoue les positions qu'il faut arrêter dans son comportement personnel. Et à ce titre, nous défendons les droits de la conscience chrétienne, comme la note le souligne, au même titre que les droits de toute conscience de toute personne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est le relativisme éthique qui conduit en fait à la dissolution de toute éthique. Donc c'est vraiment un fil conducteur extrêmement important que nous avons dans cette note doctrinale.
Juste avant d'être élu pape, le cardinal Ratzinger s'était rendu à Subiaco. Vous-même, vous y êtes allé?
Oui, d'abord, la démarche de Saint-Benoît qui s'est retiré 3 ans, pour nous, est quelque chose de tout à fait essentiel, qui nous est rappelé. Que nous ne pouvons pas défendre, promouvoir, proposer des positions exigeantes en matière d'éthique, en matière de législation, si nous pouvons laisser penser que nous défendons des intérêts personnels, égoïsmes, des avantages personnels. Pour ça, il faut donc remettre nos compteurs, notre attitude au degré zéro, c'est-à-dire la référence de base, c'est-à-dire le partage d'une communion vis-à-vis de toute l'humanité.
Donc pas de lobbying?
Pas de lobbying, mais une force de conviction, comme Benoît XVI l'a dit en commençant son propre pontificat, en disant qu'il n'avait pas de programme personnel, de volonté propre à défendre, mais qu'il voulait vraiment laisser passer le Christ pour qu'il gouverne l'Église. Eh bien, nous, c'est la même chose. Hein. Nous n'avons pas à dominer nos frères en politique, mais nous avons à faire en sorte que la lumière que nous recevons, qui vient de Jésus, qui vient du Christ, eh bien, leur arrive à eux aussi. Nous avons à être nous-mêmes des témoins, nous avons à être aussi des facilitateurs. Et je m'amuse à dire, il y a le berger et je suis un chien de berger.
Est-ce que vous avez des exemples précis?
J'ai combattu sur les lois bioéthiques, même en 1994. Je me suis opposé à la congélation des embryons. Et j'ai défendu d'ailleurs un amendement d'interdiction. J'ai été battu très largement. Mais j'ai dit, écoutez, il y a un principe de morale, de base, de loi naturelle qui consiste à ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, mais lui faire ce qu'on voudrait qu'on fasse. Je n'aurais pas aimé être congelé. Je ne propose donc pas la congélation d'un autre être humain.
Sur le plan de la construction européenne, quel est justement l'apport pour vous de ce pèlerinage à Rome, à Subiaco?
Ce qui nous importe, c'est que l'Europe apporte dans le monde une lumière sur la vie, sur la responsabilité, sur la justice, sur l'écologie. Donc en fait, c'est l'Europe, entre guillemets, chrétienne qui convient. Donc c'est-à-dire l'âme de l'Europe doit pouvoir s'exprimer. Quand je vois ce qui se passe au Parlement européen, il faudrait que nous nous organisions un peu pour que apparaisse clairement ce qu'est l'Europe, son apport depuis cette évolution à travers le christianisme. Il y a une culture européenne qui doit trouver son expression moderne, mais sans renier les valeurs philosophiques, anthropologiques.